Bonjour Jean-Michel Jarre.
Bonjour Patrick.
Voici donc les mémoires d'un musicien dont tout le monde connaît le nom aux quatre coins de la planète, mais aussi d'un homme qu'on connaît assez peu. On vous relie parfois à votre père, le compositeur de cinéma Maurice Jarre, mais avec cet homme absent et égoïste, vous n'avez eu pratiquement aucun lien. La première personne à qui vous vous référez dans votre livre, c'est votre mère, France Peugeot, résistante, arrêtée plusieurs fois, déportée à Ravensbrück. C'est votre héroïne ?
Oui, bien sûr, c'est une héroïne de la guerre, mais c'est une héroïne tout court. Et puis, effectivement, comme vous le signaliez, mon père n'ayant pas été loin d'être un père parfait, puisqu'il nous a abandonnés quand j'avais 5 ans, ce qui jusque-là peut être classique, sauf que ce qui est moins classique, c'est que je ne l'ai pratiquement pas vu. On a totalement manqué notre relation, et comme je le dis dans le livre, c'est souvent plus facile d'avoir un père contre lequel se rebeller, plutôt qu'une absence qui vous empêche de vous construire d'une certaine manière. C'est une sorte de trou noir et d'indifférence. Celle qui a joué le rôle à la fois de la mère et du père, ce qui n'est pas facile, surtout pour un fils unique, c'est ma mère. Et donc, très rapidement, j'ai eu conscience de vouloir aider et protéger cette femme.
Mais il faut lire l'histoire de votre mère France, parce qu'il y a aussi beaucoup de la dureté, de la cruauté de l'époque qui ressurgit. Votre mère, par exemple, a appris ensuite que c'est sa sœur qui l'avait trahi.
Oui, c'est une histoire de... C'est une triste histoire de famille. C'est qu'en fait, effectivement, elle avait un rendez-vous avec son réseau franc-tireur à Lyon. Et en fait, sa sœur a su que la Gestapo allait tomber, allait dans ce café, faire leur coup de filet. Et elle n'a tout simplement pas prévenu. Elle ne l'a pas prévenu. Donc, en retour de la guerre... Ayant une famille très rétrécie, parce que c'était la sœur unique, elle a choisi d'oublier, elle a choisi de ne pas détruire ce qui restait de sa famille, en l'occurrence pour son propre fils, pour moi.
Elle a ignoré cette trahison. Jean-Michel Jarre, une vocation musicale, en tout cas auditive, née d'un cadeau que vous fait votre grand-père à Noël 62. C'est un petit magnétophone avec lequel vous enregistrez des bruits.
Oui, mon grand-père était alors, c'était finalement la figure paternelle pour moi. Et effectivement, vers l'âge de 12 ans, il m'offre ce magnétophone Grundig d'occasion, qui était un luxe inouï pour l'époque. Ouais. Et je me mets à enregistrer tout ce qui se passait dans la maison et puis à l'extérieur. Et puis un jour, je passe la bande à l'envers, j'ai l'impression que les aliens me parlent. Et à partir de là, dans les premiers groupes de rock dans lesquels je joue quand je suis ado, je prends l'habitude de trafiquer les sons avec ça, sans savoir du tout qu'un jour, ça changerait ma vie et ça changerait surtout aussi la manière dont on fait de la musique aujourd'hui.
Et puis une douzaine d'années plus tard, un premier album composé dans votre cuisine. Comme vous le dites drôlement, il y avait tout pour que ça ne sorte pas de votre cuisine. Pas de batteur, pas de chanteur, des morceaux de 10 minutes, sans titre, une tête de mort sur la pochette et un nom de gaz. Oxygène. Oxygène en 1976, Jean-Michel Jarre, pourquoi ça marche ? D'abord, quelles sont les bonnes fées qui ont permis que ça passe de votre cuisine à la radio et que ça trouve ensuite des millions de paires d'oreilles ?
Alors, il y a une bonne fée parmi d'autres, c'est Europe 1. C'est-à-dire que la première fois où la Oxygène va passer, c'est Europe 1 qui le joue entièrement, ce qui était très rare, et tout démarre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, cette musique qui sort en plein période disco, période punk, qui n'a absolument aucun des éléments, comme vous le rappeliez, fait pour faire un succès, va être un succès planétaire. Mais si on revient un peu en arrière, c'est une musique au départ, la musique électronique, il ne faut pas l'oublier qu'elle est née en France, elle est née en Allemagne, en Europe continentale, elle n'a rien à voir avec le blues, le jazz, le rock, elle n'a rien à voir avec les États-Unis. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la scène électro française et allemande a toujours été extrêmement importante et tout à fait légitime.
Et vous en êtes un peu le père spirituel. En voilà, tout cas, vous êtes l'un des référents et j'ai pu le mesurer pour la jeune génération.
Voilà, et donc du coup, effectivement, étant un des premiers, puisqu'il n'y avait personne derrière, il y avait des chercheurs, mais j'étais persuadé depuis le départ qu'elle allait être la musique la musique du 21e siècle. J'étais absolument convaincu de ça. Et quand Oxygène sort, je pense qu'il y a tout un ensemble de choses. La musique d'abord, qui était une musique qui était liée à l'espace, liée au futur. Et puis en même temps, il y a le titre, la pochette très forte de Michel Grand. Cette terre écorchée d'où émerge un crâne. Et donc, il y a tout un ensemble de choses qui fait que cet album-là est un album qui est devenu effectivement, sans que je le sache évidemment à l'époque, une forme de référence aussi bien par rapport à la musique électronique que par rapport à une manière de faire passer des messages à travers aussi une musique.
C'était une première pierre. Alors vous racontez, c'est une part de votre livre Mélancolique Rodéo, Jean-Michel Jarre, les coulisses et les mois de préparation de tous vos concerts, événements face à chaque fois à des marées humaines sur la Tamise, à la Défense, en Égypte pour le passage à l'an 2000, en Chine, en Arabie Saoudite. Le plus fou de ces concerts.
Le premier concert que j'ai fait à la Concorde était pour moi un concert totalement, c'est une expérimentation, c'était l'idée de dire comment faire passer une musique tout à fait différente en live. Et donc j'ai eu cette idée, et j'ai été je pense le premier vraiment à intégrer des techniques visuelles en extérieur pour créer ce qui allait devenir, je pense, la grammaire ou le vocabulaire d'une performance de concert électro et d'ailleurs au-delà aujourd'hui.
1 million de spectateurs à la Concorde, 7 accouchements pendant le concert.
Oui, c'est en fait Jacques Chirac, l'actuel à l'époque ma mère de Paris, qui me félicite. C'est la première fois que je le rencontre d'ailleurs, une première d'une longue série, et qui m'apprend effectivement qu'il y a eu 7 accouchements et que c'était apparemment une moyenne pour 1 million de personnes.
Voilà, d'autres anecdotes, enfin. Un homme barbu aux airs de Fidel Castro qui vous félicite. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est Mick Jagger.
Oui, qui m'a. Je l'avais pas reconnu sur le coup. Il m'a dit après coup, qu'il était en train de tourner un film. Effectivement, c'était effectivement un très bon souvenir.
À Pékin, des hommes qui s'approchent de vous, ce sont des pianistes, les doigts broyés, victimes des purges et des châtiments de la révolution. C'est évidemment très très frappant, très. Très émouvant.
Oui, j'ai eu la chance, je peux dire, d'être le premier artiste occidental à jouer à Pékin, à Shanghai, en Chine, juste après la chute de Mao, après la chute de la bande des quatre, ce qu'on appelait, à l'époque de Deng Xiaoping. Et effectivement, c'était comme de jouer sur la Lune. Enfin, c'est un souvenir extraordinaire à une époque où la Chine juste s'ouvrait au monde, s'entrouvrait au monde.
Mélancolique Rodéo, c'est à lire, c'est une somme, c'est une saga et un destin hors du commun chez Robert Laffont. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre.
Merci à vous.